Je vous invite à la prière. Eh bien, Seigneur, nous invoquons ta présence au milieu de nous. Oui, toi qui as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons, Seigneur, que tu es là, que tu nous accompagnes aussi selon tes promesses, quelle que soit la situation de nos vies, que tu es auprès de nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous voulons ce matin, chacun nous approprier cette promesse, afin d'être renouvelés de ta présence, fortifiés et gardés dans ta paix. Amen. Juste quelques mots de présentation de ce culte. J'ai eu un petit entretien avec Paul Robert, qui va tout à l'heure nous annoncer, être le prédicateur pour ce culte. Et j'ai pris là quelques notes qui m'ont frappé sur le moment. Ça ne sera pas exactement ce que dira Paul Robert, mais ça va dans cet esprit. Vous savez, il y a quelque temps, on a parlé à plusieurs reprises de la Sainte-Cène, plusieurs aspects de la Sainte-Cène. Et Paul Robert me disait, oui, il y a un aspect, il me semble qu'on a vraiment un peu passé comme chat sur braise, j'aimerais approfondir un peu ce matin. Alors voilà, je rappelle simplement tout avant cela, trois sens premiers de la scène. Bon, il y en a plus, mais trois sens qui nous paraissent importants. Le premier que nous annonçons fréquemment, en tout cas chez nous, c'est le mémorial. Nous prenons la scène en souvenir de ce que Jésus-Christ a fait pour nous, en souvenir de son incarnation dans notre humanité, lui qui a donné son corps, lui qui a accepté que son sang soit versé, lui qui est mort pour nos péchés, mais qui est aussi ressuscité pour notre vie éternelle. Ça, c'est le premier sens, le mémorial. Et il y a un deuxième accent que l'on peut mettre aussi sur la scène, c'est celui de la communion. La communion avec les frères et sœurs en Christ, la communion avec Jésus-Christ lui-même, la communion avec l'Église répandue sur toute la surface de la terre et la communion entre tous les chrétiens de l'histoire qui ont vécu depuis bientôt 2000 ans. Nous manifestons aussi cette communion, c'est un autre aspect de la scène. Et un troisième, c'est l'espérance. En prenant la scène, nous vivons en quelque sorte une anticipation du royaume de Dieu, un acompte du grand festin dans le royaume de Dieu. En prenant la scène, nous manifestons notre espérance dans la venue prochaine du royaume de Dieu. Et pas seulement notre espérance, mais aussi notre persévérance. Car l'Évangile nous dit, dans l'institution de la scène, jusqu'à ce qu'il vienne. Nous vivons des moments difficiles, des moments de persécution, des moments de guerre, mais nous avons cette espérance jusqu'à ce qu'il vienne, nous pourrons prendre ce repas. Et alors après, ce sera la félicité, parce que ce sera le grand festin en présence de notre Seigneur. Alors, souvenons-nous de ces paroles. Les disciples eux-mêmes s'en souvenaient, puisqu'ils étaient convaincus que de leur vivant encore, Jésus reviendrait. Et nous aussi, nous sommes là, mais soyons convaincus que nous verrons le retour de Jésus-Christ, que nous serons bientôt réunis à lui. Alors ce matin, c'est sur ce troisième sens, plus particulièrement, que Paul Robert va nous parler. Alors nous allons vous lire maintenant les quelques textes choisis et qui seront l'appui, le fondement de la prédication apportée ce matin. Alors tout d'abord, un premier texte dans le psaume 90. Psaume 90, verset 4. « Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. »
Ensuite, dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, versets 5 à 13. « Comme quelques-uns parlaient des belles pierres et des offrandes qui faisaient l'ornement du temple, Jésus dit, les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Ils lui demandèrent, Maître, quand donc cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits. Car plusieurs viendront en mon nom, disant, « C'est moi, et le temps approche, ne les suivez pas. » Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. »
Un peu plus loin, dans ce chapitre 21 de Luc, au verset 19, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de vos têtes. » Ça me trouble, hein? « Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. »
Alors, toujours dans Luc 21, versets 25 à 28, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Approche, pardon.
Et maintenant, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, dès le verset 26, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même.
Et pour terminer, dans Apocalypse 3, versets 10 et 11, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. »
Eh bien oui, Seigneur, maintenant nous voulons te remettre Paul Robert, pour que tu l'assistes de ton esprit dans ce qu'il aura à nous dire. Que nous soyons nourris, renouvelés, fortifiés, Seigneur, dans tout notre questionnement, que tu puisses apporter une réponse et nous accorder ta paix. Merci, car nous savons que tu es auprès de Paul Robert maintenant. Amen.
Amen. Merci. Bonjour à chacun. Comme un souffle fragile, ta parole se donne. C'est pas si fragile que ça ce matin. Et c'est vrai que quand on lit ces textes, premièrement, ça nous parle à nous. Ça nous travaille. Et on a peur de casser la parole en disant « qu'est-ce qu'on va dire ?» Comme ce vase d'argile. Est-ce vraiment dans la dépendance du Seigneur ? Excusez-moi, ça me... Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. C'est une phrase tirée du conte La Barbe Bleue de Charles Perrault. La Barbe Bleue, dans ce conte que je ne connais pas spécialement, s'apprête à trancher le cou de sa femme parce qu'il paraît qu'elle lui a désobéi. Alors cette dernière, descendant à son supplice, prie en descendant, s'arrête et demande à sa sœur qui guette juchée tout en haut de la tour, qui guette si ses frères vont arriver pour la délivrer, délivrer la jeune épouse. Et elle lui lance ce célèbre « Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir ?»« Je ne vois que le ciel, le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. » L'attente angoissée de la jeune femme face à son destin cruel. Ne vois-tu rien venir ? Aujourd'hui, en pensant à ce jusqu'à, on en reparlera, j'avais envie de parodier un peu cette phrase. Dans l'attente de ce jour nouveau, dans cette attente du « je viens bientôt », et de dire « mon frère, ma sœur, chrétien, ne vois-tu rien venir ?» Je ne vois que le soleil qui poudroie dans les trous d'ozone. Et l'herbe qui verdoie plus aussi facilement. Des glaces qui fondent, des mers qui sortent de leur zone, la pollution qui étouffe notre environnement. Ne vois-tu rien venir ? Je ne vois qu'un monde fou et qui se précipite dans des guerres inutiles pour l'or de quelques pépites, jetant les gens par horde, hors de leur pays, quémandant alors le refuge à ceux qui s'en ont dit. Mon frère, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que le Dieu Mammon dans toute sa puissance, asservissant les hommes, les mettant à ses pieds, endettés jusqu'au cou par pays entier. Mauvais maître, assis sur son trône de silence. Ne vois-tu rien venir ? Chrétien, ne vois-tu rien venir ? Des gens du dehors qui peuvent nous poser cette question. Je vois des jeunes déroutés, ne sachant que faire de leurs mains. L'économie délocalise le travail de l'ouvrier, en Asie ou ailleurs. Quels sont leurs lendemains ? Tout ceci, tout cela engendre l'oisiveté, mère de tous les vices. Le coup part, la pierre est jetée. On appelle la police. Mon frère, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Je ne vois que des gens qui nous gouvernent, voulant faire bien, mais ballottés comme fétus de paille, les vents de toute doctrine soufflant en pagaille, semant le doute, la peur, la peine, la haine. Je ne vois que des gens sans relation, malgré l'électronique de la communication. Chacun dans son coin, égoïste. Révolution ! Je vois revenir les guerres de religion. Mon frère, ma sœur, chrétien, mon frère, ne vois-tu rien venir ? Je vois une église qui souffre, ici ou ailleurs, des chrétiens persécutés, emprisonnés, bâillonnés, vivant leur foi au travers de l'épée, qui attendent avec impatience le retour de leur Seigneur. Mon frère, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Je vois une église bien de Chine, un peu endormie, qui ne bouge pas beaucoup, ayant un peu perdu son premier amour. Moi, j'en fais partie. Et vous ? Mon frère, ma sœur, ne vois-tu rien venir ? Pourquoi cette question qui m'a permis de brosser ce tableau un peu triste de notre monde ? Je n'ai rien mis de très positif là-dedans. Il y a aussi des choses positives, mais enfin bon. Oui, pourquoi cette question ? Parce que, comme il a été dit, elle nous est posée chaque dimanche. Ce jour du Seigneur, notre sabbat, notre repos. On en a eu parlé du repos. Nous nous réunissons pour le culte. Nous prenons la Sainte Cène et nous entendons et vivons cette phrase de 1 Corinthiens 11 qui nous a été lue, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur vous annoncée, jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'il vienne. Oui, nous avons partagé l'automne dernier sur la Sainte Seine. Et je crois qu'il a été parlé encore de la communion il y a quelques dimanches en arrière. Nous avons partagé sur l'historique du partage du pain et du vin, sur le faire mémoire, de combattre l'oubli, combattre le doute en mémoire du Seigneur pour ce qu'il est. Nous avons évoqué l'espérance de ce repas magnifique que nous serons avec lui là-haut. Rappelez-vous cette belle table-là, au milieu, avec des couleurs, des coupes, du vin et du pain en abondance. Ce n'était pas du pain, c'était de la tresse. C'était magnifique. Souvenez-vous. Mais, dans tout cela, il me semble que nous avons sauté un peu vite le jusqu'à ce que je vienne. Le jusqu'à, l'attente. Oui, il est bon de nous projeter, de nous voir ensemble avec Christ à cette table. Quelle merveilleuse réjouissance en perspective. C'est notre espérance. L'apôtre Paul nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est un de mes versets préférés. Se réjouir. C'est se réjouir de quelque chose qui va venir, d'un événement que l'on va vivre. Se réjouir d'une fête. Je me rappelle quand j'étais gamin, il y avait un peu, quand on avait notre anniversaire, notre jour de naissance, on mettait une table jolie, enfin la maman préparait ça, et puis on mettait des fleurs ou quelque chose autour de l'assiette de celui qui avait son anniversaire, dessus son pilet des cadeaux, enfin son pilet n'avait pas... Enfin, il y avait des cadeaux, et on faisait un bon repas en général, ce que... Le jeune demandait, moi j'avais de la purée avec je sais pas quoi. Et pendant qu'on préparait tout ça, on nous envoyait dans notre chambre. Toute la famille était là, mais nous on nous envoyait dans notre chambre. Hein? On savait ce qui se préparait, mais on nous envoyait dans notre chambre. Et puis là, j'attendais. Je me rappelle, j'avais cette impatience. Chaque seconde me semblait longue. Ça durait quelques minutes, mais ça me semblait une éternité. Je me réjouissais de ce repas qu'allait venir, de cette fête. De ce « bonne fête » quand on allait nous chanter, « bon anniversaire » ou « bonne fête », etc. Quand on arrivait, on avait un sourire jusque-là. Oui, se réjouir d'une fête, de cadeaux, d'un voyage, de vacances qui vont venir, d'un moment de repos, d'une promotion promise au travail, d'un repas d'église, d'un partage avec les frères et sœurs, d'un prochain mariage. On se réjouit du mariage de hier. On y était nombreux. Il manque ce matin. Certains. On se réjouit de ce mariage. Mais dans ce réjouir, je ressens un peu ce terme, dans ce terme un peu le futur. Il y a l'attente espérante. Or, je ne sais pas si espérante, c'est français, je ne crois pas. Mais ça ne fait rien, c'est un nouveau mot qu'on rajoute aujourd'hui. Il y a l'attente espérante. Parce qu'une fois qu'on a reçu, qu'on a vécu, on peut jouir sur le moment. Après, le mariage hier, on s'est réjoui. Maintenant, bon, ça y est, c'est... Enfin, pour les deux mariés, c'est... Mais pour nous. On peut se réjouir du repas avec le roi, se réjouir du retour de notre Seigneur, et qu'est-ce que... Quelque part, c'est normal pour nous, les chrétiens, de se réjouir de ce retour du Seigneur. Et les secondes devraient nous sembler longues, mais longues. Parce que comme Paul nous dit dans 1 Corinthiens, verset 15, chapitre 15, verset 19, « Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre, les plus malheureux de tous les hommes. » Alors réjouissons-nous du retour du Seigneur. Attendons-le avec impatience. « Maranatha, viens Seigneur Jésus !» Ok, mais ma patience, elle a un peu des limites quand même. Ça fait plus de 2000 ans qu'il nous a dit qu'il revient. Quand, jusqu'à quand? Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. C'est dans Luc 21, il y a aussi dans Matthieu, enfin je suis arrêté un peu sur ce chapitre de Luc que je vais reprendre. Dans les paroles de Jésus rapportées dans ce chapitre, dans les évangiles, sur son avènement, sur son retour, j'ai lu « Jésus lève un petit peu le voile de l'avenir » en citant des événements, on les a entendus, précédant son retour. Des choses pas faciles à entendre. Guerre, tremblement de terre, famine, peste. Et surtout, persécution des chrétiens, persécution de l'Église. Et ces événements amènent plusieurs au cours des années à penser que le retour de Jésus est pour là tout de suite ou pour demain. Je me rappelle, 14-15 ans, dans les années 60, je m'appelle un vieux monsieur, mais vraiment un vieux monsieur, grande barbe blanche, chapeau, il avait une deux chevaux, qui était de nos assemblées dans le canton de Genève, je ne me rappelle plus son nom, qui dans les années 60 était sûr, et nous le disait, que Jésus reviendrait de son vivant, et il attendait le retour du Christ. Mon papa et ma maman, ils se sont mariés pendant les années de la dernière guerre. Alors là, les bruits de guerre mondiale, il y en avait. Et dans leur alliance, ils n'avaient pas mis, comme tout le monde, un verset biblique. Enfin, comme tout le monde, je ne sais pas si ça se fait toujours. Ils avaient fait marquer à l'intérieur de leur alliance « unis jusqu'à ce qu'ils viennent ». C'était magnifique. Mais ils sont toujours unis jusqu'à ce qu'ils viennent. Enfin, malgré tout, ils pensaient quand même, comme beaucoup, que ça précédait le retour du Seigneur. Le retour des Juifs en Israël a provoqué de nombreuses prophéties sur le retour imminent de Jésus-Christ. Ce qui n'est pas nécessairement faux. Hein. Attention, il peut revenir demain. Mais jusqu'à ce matin, nada, rien, il n'est pas revenu. Et c'est une grâce, parce que la parenthèse de grâce offerte aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, elle n'est pas refermée. Merci Seigneur. C'est lui qui est patient. Cependant, nous attendons, jusqu'à quand? Comment attendons-nous? Comment vis-tu le jusqu'à? Dieu, lui, il est hors du temps. 1000 ans sont comme un jour. Cependant, il a créé le temps, composé de 3 étapes. Hier, aujourd'hui, demain. D'ailleurs, dans son essence trinitaire, il nous le rappelle un petit peu. Dieu, le Père, c'est le Créateur, c'est un peu la source de toute chose. Celui d'où l'on vient, qui nous donne un nom. C'est un peu, petite image, hein, c'est un peu le passé. Un peu hier. Dieu le Fils, c'est celui qui est venu, qui est mort pour nous, qui est ressuscité, mais nous attendons son retour. C'est un peu notre futur. Et puis Dieu le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle aujourd'hui dans nos cœurs les choses divines. C'est un petit peu le présent. On arrête là l'image. Hein. Dieu, il est hier, aujourd'hui et demain, on le sait. Mais enfin, voilà. Et Dieu, dans sa sagesse souveraine, a donné le temps à l'homme. Il l'a soumis au temps qui défile et à toute vitesse. Il est un peu limité, l'homme. Je voulais juste dire, j'ai reçu le nouvel Horizon 9, et dans l'Horizon 9, il y a un article de Claire Dorigue, Dieu et nos limites. Nos limites et Dieu. Je vous encourage vraiment à le lire. Très bon article sur nos limites. Mais une quatrième dimension, l'homme vit dans 3 dimensions, longueur, largeur, hauteur, c'est toujours par 3. Hein. Mais on est dans une 4e dimension, nos limites, c'est le temps qui passe. Un jour je viens à la vie, un jour je quitte cette vie. C'est un absolu pour chacun. Résultat, très souvent, on se précipite, on court, on stresse, on est pressé, on devient impatient. Dis, quand reviendras-tu? Je viens bientôt. Voilà ce qu'il nous répond. Je viens bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le premier et le dernier. Je suis le commencement et la fin. Avec Dieu, c'est donc, on est dans le temps. Il y a une ligne. On va de là à là. C'est pas un cercle, comme d'autres religions nous le proposent, où on revient, où c'est vicieux. Non. Il y a un début, il y aura une fin. Un jour, il revient. Notre foi se vit dans le quotidien de nos vies. Ce quotidien plus ou moins bon, qui engendre parfois du stress, de la révolte, de l'envie, de l'émulation pour quelque chose. Mais aussi de la lassitude, du à quoi bon, du laisser aller, de la grisaille. Alors on oublie, on doute, ou bien alors on se croit éternel. Le retour du Christ, bof. Comme la mort, on l'efface de nos pensées. Carpe diem. Rappelez-vous, je disais ça il y a quelques dimanches. Carpe diem. On vit que le moment présent. Mange, bois, réjouis-toi demain. Du moins. Et puis là, il y a les paroles du Christ. Allez ! Allez, nous dit Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Allez, car moi je me souviens que tu es poussière. Je sais que tu es mortel. Je connais tes limites, que le temps a prises sur toi. Mais je t'aime. Je te donne un nom nouveau. Un nom qui est écrit dans le livre de vie. Un jour, tu boiras le vin nouveau avec moi dans le royaume de mon Père. Que celui qui a des oreilles écoute. Ma petite fille Amélia, dès qu'il y a un bruit, un chien, un perro, un chien ou un avion qui passe, elle dit « T'entends ? T'entends ?» Parce qu'elle veut nous faire partager ce qu'elle entend. Alors, ce qu'il y a des fois, moi, j'entends plus ce qu'elle entend. « T'entends ?» Que celui qui a des oreilles écoute. Dans ce jusqu'à, dans cette attente, dans Luc 21, je reprends quelques mots. Prends garde à toi-même, de peur que ton cœur s'alourdisse. Veille pour ne pas te laisser égarer. Prie afin de ne pas tomber dans le piège de la tentation. Et tout ça, ça me concerne moi en premier. Ne t'effraie pas, il nous dit aussi. Tout cela doit arriver. Ne t'effraie pas. Redresse-toi, lève la tête. La rédemption est proche ou approche. Tiens ferme ce que tu as. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Et personne ne prendra ta couronne de vie. Je viens bientôt. Lors de mon dernier message sur la Sainte Cène, je vous disais que la foi est tissée avec le fil de la confiance et le fil de l'espérance. Aujourd'hui, dimanche 25 mars, dans cette attente espérante du retour du Christ, je rajoute un troisième fil, celui de la persévérance. La corde à trois fils ne rompt pas facilement, nous dit l'Ecclésiaste. De même, le tissu de la foi, tissé avec le fil de la confiance dans les promesses certaines de Dieu, avec le fil de l'espérance de ce vin nouveau que nous boirons avec lui dans le royaume du Père. Et ce troisième fil, la persévérance. Tenir le coup. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ligne droite. Je suis avec vous jusqu'à. Qu'il revienne de notre vivant ou pas, il est avec nous jusqu'à la fin. Confiance, espérance, persévérance. Là, notre foi, je pense, pourra être solide. Dans ce monde où nous vivons, qui n'a plus beaucoup de projets à long terme, qui vit dans l'angoisse, vous l'avez voulu, l'angoisse des nations, ne sachant que faire, au bruit de la mer et des flots, la Sainte Seine. La Sainte Seine nous rappelle qu'il y a un avenir, qu'il y a une espérance. Notre foi est porteuse d'une dimension beaucoup plus large et vaste qui s'élève au-dessus de nos vies, permettant de voir, quand on s'élève, ça nous permet de voir la réalisation des promesses certaines de notre Père, qui nous a dites, mais aussi de saisir la présence de Christ, réveillée par le Saint-Esprit, à nos côtés, maintenant. Allez, allez. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je viens bientôt. Beaucoup de versets bibliques dans le Nouveau Testament parlent de persévérance, de persévérer, de grandir, etc. Ce matin, je vous laisse celui de Paul, dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 24. Car c'est en espérance que vous êtes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Que le Dieu de toute consolation, dans nos vies, dans le cours de nos vies, soit avec nous et nous vienne en aide. Amen.